Nzamba.
Nzambira samirana.
Bonsoir, chers auditeurs de la radio Nzamba Gateka Kawe. Nous sommes samedi le 24 juillet 2021. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française à la présentation de cette édition. Joséphine Jones-Munzeman. D'abord, les principaux titres de cette édition. L'insécurité, c'est sur la colline Kididiri en commune Lusoni où un sexagénaire a été tué dans la nuit de ce vendredi par des hommes armés non encore identifiés. C'est la grogne au sein de certains habitants de la commune Mugamba. Les jeunes et les pensionnés de l'armée fuient leur localité de peur d'être arrêtés par la police. Ceux qui tombent dans les mains de la police sont libérés moyennant paiement d'une somme colossale. Les élus du peuple n'ont pas besoin de la garde de l'unité d'appui pour la protection du moment que le pouvoir de Gitega ne cesse de chanter que la paix règne dans le pays. Le rôle de cette unité est de protéger des hautes institutions du pays selon Gratien Lukindikiza, un ancien officier de l'armée burundaise. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Rebonsoir. Un sexagénaire tué à l'arme blanche, cela s'est produit hier soir à Kididiri dans la commune Busoni de la province Kirundo, c'est dans le nord du pays. La victime est rentrée chez elle à pied quand elle est tombée dans une embuscade d'hommes armés de marteaux et de poignards, selon des sources sur place. Les auteurs du crime n'ont pas encore été identifiés. Les précisions de Vanessa Mouitek.
Lazare Boukoulou a été tué à 200 mètres de son domicile. C'était entre 19h et 20h. Il venait d'un débit de boisson situé à environ 800 mètres de chez lui, selon son témoignage.
Entre le débit du boisson et le lieu du crime, il y a à peu près 600 mètres. Il a été attaqué par des gens armés de marteaux et de poignards. Ils lui ont asséné des coups de marteau et de poignard et il est mort sur le champ. Les auteurs de ce meurtre ne sont pas encore connus.
Le mobile du meurtre de ce père de cet enfant n'est pas connu selon la même source. Sollicité par la radio Nzamba pour apporter plus de précisions, l'administrateur de la commune Busoni a refusé de répondre à nos questions au téléphone.
Vous parlez d'Nzamba, c'est radio que nous avons fermée. Je suis au bureau. Envoie-moi un journaliste, c'est bien qu'on parle en tête à tête.
A précisé qu'aucune arrestation n'avait été opérée jusqu'à la mi-journée de ce samedi, selon des habitants de Kididiri.
Parlons conflit foncier. Trois personnes ont été blessées dans l'avant-midi de ce samedi suite à des affrontements qui ont opposé des résidents et rapatriés. Cela s'est passé sur la colline Kazirabageni, en commune Nyanzarake. C'est au moment où la Cour spéciale terre et autres biens venait mettre en exécution un jugement. Des précisions avec Jacob Sibomana.
Selon une source locale, les faits se sont déroulés ce mercredi au moment où la Cour spéciale des terres et autres était venue mettre en exécution un jugement rendu contre deux familles, une des rapatriés, une autre des résidents. Le procès en question opposait un certain Elias Saonimana, rapatrié, et Amos Vanericha, résident. Selon notre source à Nyanzalak, la Cour a mis en exécution une propriété appartenant à Salomon Mogogo de l'église Eusebu, qui n'était pas en conflit. La famille rapatriée a procédé à la moisson des palmeries mûres la veille ce jeudi. Un antagonisme est né entre ces deux familles ce samedi. Les résidents ont voulu restituer les biens emportés par les rapatriés. Le conflit qui a eu lieu a fait des blessés, dont trois graves. Ils sont sous traitement à l'hôpital Nyanzalak pour le moment. Les résidents accusent les juges de la Cour spéciale d'être de partialité. La rédaction Nzamba n'a pas pu joindre le président de la Cour spéciale pour de plus amples informations.
Au chapitre de la justice, Pacifique Wingabie, un jeune homme récemment libéré de prison par grâce présidentielle, a été de nouveau arrêté ce vendredi en province de Kayanza. C'est un nouveau cas parmi de nombreux autres enregistrés par l'association Akate Burundi des défenseurs des droits humains. Maître Jean-Claude Niburumunsi indique que les anciens prisonniers politiques sont les cibles de ces arrestations. Les familles des victimes craignent pour la sécurité de ces personnes bénéficiaires de la grâce présidentielle. On écoute Maître Jean-Claude Niburumunsi.
Depuis la mise en œuvre du décret portant mesures de grâce présidentielle en avril 2021, à la Cate Burundi, nous observons une chasse à l'homme dirigée contre les bénéficiaires de la grâce parmi les prisonniers politiques. Vous vous rappelez que à la prison d'Omimba, un détenu qui venait d'être libéré n'a pas eu la chance d'arriver même à la maison. Il a été enlevé et porté disparu l'heure qui a suivi sa libération. Le dernier en date est le cas d'un certain Wingabie Magnifique, lui aussi qui était détenu à la prison d'Omimba et qui a été arrêté hier à Kayanza par un agent du service de renseignement. Le mobile de son arrestation n'est pas connu et la famille craint pour sa sécurité. Mais on peut se demander, est-ce qu'ils ont été graciés afin de les faire disparaître? Cette situation est vraiment inquiétante.
Inzamba.
Dans le domaine de la santé, plus de 200 personnes ont été testées positives au Covid-19 au chef-lieu de la province de Kirundo dans une période de 2 jours. Certains malades suivent leur traitement à la maison suite au manque de place à l'hôpital, selon des sources dans cette province. La population craint la propagation du Covid-19 dans le voisinage de ces malades parce que les mesures barrières contre cette pandémie ne sont pas respectées. Les détails avec Benny Axelakane.
Les tests à la Covid-19 se déroulent dans 2 endroits, au chef-lieu de la province Kirundo, à l'hôpital et au stade de football. Les sources provenant des services de la santé dans cette province indiquent que les chiffres de ceux qui ont été testés positifs gonflent spectaculairement du jour au jour. Ce jeudi, 60 personnes ont été contaminées, tandis que le lendemain, l'effectif était de 150 personnes contaminées à la Covid-19. Vu que l'hôpital était dépassé par cet effectif, les malades ont été transférés dans les salles du lycée Kanyinya. Des fois, des patients sont renvoyés à la maison et suivent des traitements. Selon les services sanitaires au niveau provincial, séparer les malades de la COVID-19 des autres malades, c'est une stratégie d'éviter la propagation par contamination. La population du chef-lieu de la province Kirundo craint une contamination à haut risque car pas de rigueur sur les mesures barrières.
Les chiffres de ceux qui sont testés positifs à la COVID-19 sont alarmants, mais les mesures barrières ne sont pas respectées. La majorité ne porte pas les masques pour se protéger. Même celui qui le porte ne le fait pas convenablement. Il ne protège pas le nez et la bouche, c'est jusqu'au niveau du menton. On dirait qu'ils ne sont pas informés sur l'existence et les conséquences de la COVID-19.
Vous saurez que 6 personnes sont décédées suite à la COVID-19 et 192 personnes sont sous traitement sur un total de 2618 cas testés positifs une année après l'annonce du premier cas au Burundi. Ces chiffres ont été présentés au mois de mars par le Comité national de riposte COVID-19.
Au chapitre de l'environnement, les habitants des quartiers riverains du lac Tanganyika ne sont pas prêts à regagner leurs anciens ménages après le passage des eaux du lac qui les ont littéralement inondés au mois d'avril. Certaines parmi la population concernée constatent que la situation tend à se normaliser, mais elles restent réticentes tant que les menaces seront toujours là et demandent que le gouvernement leur octroie d'autres parcelles ailleurs à défaut de l'indemnisation. Plaise Nijimberi.
Dans certains endroits, le déversement des eaux du lac Tanganyika a sensiblement diminué. Il s'agit notamment du quartier Kibenga-Lac, où l'eau a déjà tari jusqu'à près de 100 mètres en direction du lac. À la plage baptisée la Costa Beach et même à la Sagavodo, à Kinindouest, Zion Beach, Safari Gate, Cercle Nautique et à l'actuel South Beach, tout étant des endroits de divertissement pour la plupart. Certains anciens habitants proches du lac font savoir que la diminution des eaux dans les quartiers inondés ne résout pas le problème. La situation est loin d'être maîtrisée, selon certains habitants qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat. Ils trouvent également que les exploitants des plages et d'autres espaces de loisirs au bord du lac Tanganyika ne peuvent pas redémarrer les activités dans l'immédiat. D'autres constatent cependant qu'il est possible aujourd'hui d'y exercer de petites activités génératrices de revenus. Ils demandent au gouvernement de protéger les rives du lac dans l'intérêt public et de prévoir une possibilité d'installation ou d'indemnisation à l'endroit de certaines victimes de ce comportement du lac Tanganyika.
En politique, les députés burundais n'ont pas besoin de la garde et de sécurité au moment où le pouvoir de Gitega ne cesse de répéter que la paix règne sur tout le territoire du pays. C'est l'avis de Gratien Lukindikiza, analyste sur les questions sécuritaires. C'est au moment où le bureau de l'Assemblée nationale du Burundi a récemment annoncé aux députés qu'ils ne pourront plus réquisitionner les policiers de l'unité d'appui à la protection des institutions. Pour Gratien Lukindikiza, ces policiers de l'appui devraient plutôt assurer seulement la sécurité des hautes autorités du pays. Écoutez-le.
Le problème principal qui s'oppose en Burundi, c'est concernant la sécurité de ces députés, mais c'est vraiment le problème de la sécurité en soi. Et on se pose la question, est-ce que les députés, les sénateurs, les administrateurs communaux, les autres, les directeurs à gauche, à droite, ont besoin de la sécurité? Pour moi, non, du moment où le pays, on dit que le pays est en paix, il y a la sécurité, donc il y a l'exemple qui vient d'en haut. Pour les gens de l'API, en principe, il devait assurer la sécurité des institutions. Mais quand on parlait des institutions, on ne parlait pas de tout le monde, des députés, des sénateurs, de tout le monde. Finalement, on peut dire les institutions, tous les Burundais, parce que pour moi, les institutions sont les gens, la tête, la haute autorité du pays. C'est le président, le vice-président, le premier ministre, le président de l'Assemblée, son adjoint, le président du Sénat, quelques personnalités, le président, par exemple, du Conseil de la Cour constitutionnelle ou autre, mais qui n'est pas vraiment la sécurité de beaucoup de gens, parce que ça noie la notion même de sécurité. Tout le monde se dit finalement, plus j'ai un poste important, plus je vais avoir la sécurité. Ce qui fait que ça, il y a une grande confusion.
Dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous allons parler de la loi relative à la stabulation permanente qui sera bientôt mise en application. Émile Nivasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idruya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Ces derniers jours, le gouvernement ne cesse de rappeler aux éleveurs que la date butoir approche à grands pas, que le 4 octobre prochain, l'application de la loi relative à la stabulation permanente sera effective. Que contient cette loi? Nous allons revenir sur la plupart de ses dispositions dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 24 juillet 2021. À la présentation, c'est Émile Nivasumba. Selon l'article 3 de la loi portant stabulation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour, les animaux d'élevage concernés par la loi en question sont des bovins, des caprins, des ovins, des porcins et des animaux de la basse-cour. L'article 4 précise que tout éleveur ou tout établissement pratiquant un élevage d'animaux est soumis à l'obligation de les faire enregistrer auprès de l'autorité vétérinaire communale selon l'article 7. Hormis les campagnes organisées par l'autorité vétérinaire, les soins vétérinaires sont exercés à l'intérieur de l'enclos. L'article 8 de cette loi du 4 octobre 2018 stipule que les animaux sont nourris à l'étable, l'aliment de base et le fourrage est cultivé ou coupé dans les prairies naturelles. Quand elle existe, au moment de la demande et de l'enregistrement de son élevage, chaque éleveur du monde rural et périurbain est tenu de faire preuve de possession d'une quantité suffisante de cultures fourragères variées suivant les normes zootechniques définies par ordonnance du ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Suivant la décision et les modalités arrêtées par l'autorité foncière compétente, les espaces pâturables publics peuvent être transformés en prairies où les éleveurs peuvent avoir accès pour couper le fourrage ou la litière. Les animaux ne peuvent pas y avoir accès. La loi précise également que l'élevage des ruminants et des porcins en milieu urbain est interdit. L'élevage familial de volailles, de lapins et de cobayes est autorisé en vertu de la présente loi et de la législation en vigueur en matière d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain. Cette loi signale également que l'élevage des abeilles se fait dans des ruches, placées dans des ruchers, éloignées des lieux publics et des habitations. Le chapitre 3 de cette loi de 2018 concerne l'interdiction de la divagation du bétail. Selon l'article 22, tout animal, à l'exception des déplacements pour urgence et nécessité par la reproduction, se déplaçant à l'intérieur de la commune ou d'une commune à une autre, est accompagné d'une feuille de route qui comporte l'autorisation de l'administrateur de la commune d'origine. À la feuille de route est annexé un certificat sanitaire délivré par l'autorité vétérinaire de la commune d'origine sous la supervision de l'autorité vétérinaire provinciale.
Des amendes sont prévues pour tout propriétaire dont le bétail est trouvé en circulation irrégulière ou en état de divagation dans les parcelles, dans des cultures ou plantations d'autrui ou dans des périmètres d'aménagement rural définis par l'administration ou les organismes concessionnaires. La loi prévoit également que tout gardien qui laisse divaguer le bétail qui lui est confié sur les cultures ou plantations d'autrui au-delà des clôtures ou bornes des périmètres d'aménagement rural est punissable de 2 mois au plus de servitude pénale et d'une amende de 50 000 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement. Cette loi qui sera appliquée en octobre 2021 prévoit également les mesures préalables d'accompagnement. C'est notamment la vulgarisation de la loi en question, le renforcement des capacités des éleveurs et des encadreurs de l'élevage, la disponibilité et la vulgarisation de semences et fourragères, la facilitation de l'accès au crédit pour les éleveurs, la mise en place d'un fonds de subvention des intrants d'élevage, etc. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
C'est à présent le moment de suivre la revue de presse de ce samedi à la présentation Valérie Mucho.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue chers auditrices et auditeurs dans cette revue de la presse que nous commençons avec le journal en ligne SES Média qui écrit sur l'insécurité dans la sous-région des Grands Lacs. Selon ce journal, 4 jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, ont été tués en République démocratique du Congo la semaine dernière. Appréhendés en possession d'armes à feu, ils ont été accusés d'appartenir à un groupe de voleurs qui tentent des embuscades en tuant des passagers. 6 d'entre eux sont parvenus à fuir et le groupe a été identifié. Le meneur est un certain Jean-Marie Nibizi, comme le relate SES Média. Il est originaire de la zone Chilitoke du nord-est du Burundi. Son identité a été confirmée par ses proches après avoir vu les photos sur les réseaux sociaux. Les 9 autres complices sont originaires de la commune Rugombo. C'est toujours dans la province de Chibitoke. Ils avaient la mission de tendre des embuscades sur la route nationale numéro 5 qui relie les villes d'Uvira et Bukavu en RDC. Ceux qui ont été attrapés ont révélé qu'ils collaboraient avec quelques éléments de l'armée congolaise et des rebelles Maïmaï. Le journal de la radio-télévision belge écrit sur le secteur minier au Burundi où les opérations des sociétés minières internationales ont été suspendues. Le gouvernement burundais affirme qu'il ne bénéficie pas des revenus générés par l'extraction des richesses de son sol. Consulté ce jeudi par l'agence française de presse, le ministre des Mines, Ibrahim Ouizeye, a déclaré que cette décision avait été prise en raison de nombreux manquements au code minier par les multinationales opérant au Burundi. Selon le ministre, le gouvernement veut renégocier les conventions au profit du peuple burundais. Les 7 entreprises concernées sont d'origine britannique, chinoise et russe. Dans le volet éducatif, le journal Iwachu, qui écrit sur l'école doctorale qui peine à se tenir debout en 4 ans de fonctionnement. Lancée en juillet 2017, l'école doctorale a accueilli la première cohorte de doctorants en mars 2018. Depuis, cette école présente beaucoup de défis, parmi lesquels l'insuffisance du budget, le manque de professeurs expérimentés, des bibliothèques et des laboratoires moins fournis. Le manque de professeurs expérimentés oblige les étudiants qui préparent les thèses à chercher des co-directeurs à l'étranger. Et c'est l'une des conditions pour être accepté à l'école doctorale. Les professeurs ne sont pas motivés financièrement, ce qui constitue un autre problème, s'il faut comparer avec ceux d'ailleurs. Les promoteurs de thèse devraient être appuyés financièrement, selon toujours le journal Iwachu. Une des sources d'Iwachu indique qu'en Europe, un professeur qui dirige une thèse perçoit environ 5000 euros, alors qu'au Burundi, ils le font gratuitement. L'institution compte actuellement 160 étudiants venus de l'université du Burundi, des universités privées et des étrangers. Et parmi ces étrangers, les Congolais représentent 14% de l'effectif total des étudiants de l'école doctorale. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous terminons cette revue de la presse. Moi, Valérie Mucho, qui était à la présentation, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir et à la prochaine.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Voilà, chers auditeurs de la radio Inzamba, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous et un très bon week-end. À la prochaine.